Et notre premier orateur sera Serge Haroche, qu'on ne présente pas au Collège de France, dont il a été l'administrateur entre 2012 et 2015. Pas la peine non plus de rappeler qu'il a eu le prix Nobel de physique en 2012. Je voudrais juste dire qu'en tant qu'administrateur, il a précisément appliqué la devise du Collège, qui se trouve un peu partout sur les mosaïques qui ornent les différents sols. Et quand je vois les gens qui passent par-dessus, moi, je m'écarte toujours, parce que docet omnia, je trouve qu'on ne peut pas fouler ça aux pieds. Et donc, il a tout à fait appliqué cette devise, puisqu'il n'a pas hésité à soutenir le projet de création d'une chaire consacrée à la civilisation mésopotamienne, sur laquelle j'ai eu la chance d'être élu. Et donc, je lui ai, en dehors de toute la reconnaissance collective que nous pouvons lui avoir, j'ai une reconnaissance tout à fait particulière à Serge Haroche, mais j'ai déjà trop parlé et donc je lui donne tout de suite la parole.
Merci de cette aimable présentation. Je ne suis pas seul responsable évidemment de la création de cette chaire, mais j'ai été très heureux qu'elle soit créée. Et effectivement, je suis très sensible aux relations qui existent entre sciences exactes et sciences humaines. Vous voyez que j'ai choisi comme fond de cette diapositive un ciel bleu, parce que je vais parler de recherche fondamentale et de recherche appliquée, et les anglo-saxons appellent souvent la recherche fondamentale « blue sky research », la recherche du ciel bleu. Et je pense que cela veut dire que lorsque l'on cherche, par exemple, on se pose la question de savoir pourquoi le ciel est bleu et pourquoi le soir ou le matin il devient rouge, eh bien en fait c'est une recherche qui dans un certain sens est inutile. À quoi cela peut-il servir de savoir, pour des applications pratiques, que le ciel est bleu ? Eh bien, en fait, ça a eu de nombreuses applications. Les propriétés de diffusion de la lumière sont employées, utilisées dans un grand nombre de dispositifs qui servent à la vie pratique. Et donc, ceci nous donne un premier exemple des liens qui peuvent exister entre recherche fondamentale, application et innovation. Donc, la question qu'on peut se poser pour commencer cet exposé, c'est évidemment une question très générale. Pourquoi fait-on de la recherche ? Et il y a deux types de réponses qui ont été évoquées dans l'exposé liminaire de l'administrateur. La première, c'est évidemment pour satisfaire notre curiosité. C'est ce qu'on appelle la recherche fondamentale, la blue sky research. Il s'agit de comprendre le monde qui nous entoure, qu'il s'agisse de ce qui se passe maintenant ou du monde passé, des origines de l'univers, des origines de l'homme, de la vie. La deuxième réponse, c'est on cherche à faire des choses qui sont utiles, en répondant à des besoins de la société. On cherche à permettre à l'humanité d'avoir des moyens d'action sur le monde qui permettent de changer la façon dont on vit. C'est ce qu'on appelle la recherche appliquée et l'innovation. Et souvent, on oppose ces deux formes de recherche. Et en particulier, les gouvernants et les politiques préfèrent souvent l'utilité à court terme et ils considèrent, même s'ils ne le disent pas explicitement, que la recherche fondamentale est un luxe. J'ai entendu dire des gens exprimer l'idée que la recherche fondamentale, c'est de la recherche faite par des gens qui satisfont leur curiosité avec l'argent des autres. Voilà, par exemple, une affirmation assez provocatrice sur la recherche. Gouvernants et politiques appliquent une notion d'utilité très particulière. Il est évident qu'une recherche qui va produire des résultats rapidement sera utile, en particulier à leur réélection. Donc ils ont une constante de temps très courte à considérer et ils vont favoriser des recherches dont les résultats vont apparaître rapidement. Bien entendu, l'histoire des sciences nous montre que ce point de vue est naïf et que recherche fondamentale et appliquée sont les deux faces de la même médaille qu'on ne peut pas les séparer. Il ne peut pas y avoir d'innovation et de recherche appliquée s'il n'y a pas eu un substrat de découverte fondamentale avant. Et inversement, la recherche fondamentale ne peut pas progresser si elle ne profite pas de la technologie qui permet de sonder les propriétés de la matière, de l'univers ou de la vie de façon de plus en plus précise. Pour commencer et se donner une idée de ce qu'est ce lien entre recherche fondamentale et appliquée, il suffit de revoir l'histoire de la physique. C'est mon domaine particulier de recherche. Quelle a été l'histoire de la physique depuis la révolution scientifique des 16e et 17e siècles ? Cette recherche a été motivée par la pure curiosité, comme l'illustrent les grandes découvertes concernant la lumière et la matière. Dès le XVIIe siècle, des questions fondamentales se sont posées sur la lumière. Quelle est sa vitesse ? Est-ce qu'elle est formée d'ondes ou de particules ? si elle est formée d'ondes, comment interpréter les phénomènes d'interférence entre ondes, et des physiciens illustres comme Newton, Huygens, Fresnel, Fizeau se sont illustrés dans ses recherches sur la lumière. En parallèle, on s'est posé également des questions fondamentales sur la matière qui interagit avec la lumière. De quoi est-elle constituée et comment se manifestent les phénomènes électriques et magnétiques au niveau de la matière? Et là, on peut citer des personnes comme Coulomb, Faraday, Ampère, qui travaillent ici au Collège de France, et Maxwell. Et la convergence des recherches fondamentales dans ces domaines ont conduit à des théories extrêmement puissantes. La théorie de l'électromagnétisme, qui a unifié les phénomènes électriques, magnétiques et optiques. La théorie atomique, qui a décrit la matière comme étant constituée de particules élémentaires que sont les atomes. Et cette théorie électromagnétique et théorie atomique a eu besoin, pour comprendre de façon plus profonde le monde qui nous entoure, de bénéficier d'une révolution scientifique, celle de la physique quantique et de la relativité, qui ont remis en cause nos conceptions de l'espace, du temps, du déterminisme, du hasard. Et les personnages de Planck, Einstein et Bohr viennent à l'esprit lorsqu'on considère ces derniers, révolutions scientifiques qui se sont produites au début du XXe siècle. Ce qu'on peut dire de ces découvertes, c'est que les scientifiques qui les ont faites n'avaient aucune idée de leur utilité. Et pourtant, elles ont conduit à des inventions, des innovations qui ont changé nos vies dans tous les domaines. La façon de produire de l'énergie, la façon de communiquer, de naviguer, de calculer, de stocker de l'information, de sonder la matière, de réaliser des diagnostics médicaux, de nous soigner, tout cela est venu de ces recherches fondamentales. Et c'est venu souvent, ces applications sont souvent survenues de façon inattendue et après un très long délai. Il s'est passé, par exemple, près d'un demi-siècle entre la découverte par Einstein de l'émission stimulée et la réalisation des premiers lasers. Il s'est passé une trentaine, une quarantaine d'années entre les travaux pionnier sur la résonance magnétique et son application à l'imagerie, l'imagerie médicale. Donc, et en général, ces applications sont arrivées par la combinaison de travaux de recherche fondamentale dans différents domaines. Et je vais donner des exemples de cela. Donc, je voudrais illustrer cela par quelques exemples. Et nous allons voir qu'en fait, ces idées ne sont pas, c'est pas simplement ce qu'on fait aujourd'hui. Cette convergence entre recherche fondamentale et appliquée, ces idées qui relient ces notions entre elles, cette symbiose entre les deux, s'est produite, a commencé dès les débuts de la recherche scientifique moderne, c'est-à-dire dès le XVIe et XVIIe siècle. Je prendrai comme premier exemple Augustin Fresnel, qui a été l'un des pères, le fondateur avec Thomas Young en Angleterre, de la théorie ondulatoire de la lumière. C'est lui qui a montré, par des expériences d'interférence, en faisant interférer entre eux des faisceaux lumineux provenant de deux sources voisines, que la lumière était formée d'ondes capables de se renforcer ou de se détruire par phénomène d'interférence. Il a écrit un traité sur la lumière, dont je représente ici une page, où il décrit ces phénomènes avec une très grande précision. C'est de la recherche fondamentale. En même temps, Fresnel était également un ingénieur. C'était l'un des premiers polytechniciens et il a appliqué ses connaissances sur la lumière pour fabriquer en particulier des lentilles, qu'on appelle les lentilles de Fresnel, qui sont beaucoup plus puissantes, qui concentrent la lumière beaucoup mieux que les lentilles qui précédaient, et qui ont remplacé les premiers dispositifs dans les phares. Et on peut dire que par cette découverte, Fresnel a sauvé la vie de centaines de marins qui pouvaient donc voir la lumière de ces phares de beaucoup plus loin par le fait qu'elles utilisaient ces lentilles. Mais cette application immédiate est loin d'être le résultat le plus important des travaux de Fresnel. Fresnel n'avait pas prévu les innombrables applications de l'interférométrie, dont je parlerai un peu plus loin dans cet exposé, et qui ont une portée beaucoup plus grande que simplement leur application à des lentilles. Le second exemple que je prendrai est celui de Michael Faraday, qui a découvert le phénomène de l'induction magnétique. Si vous déplacez un aimant à proximité d'un circuit électrique, le changement du champ magnétique produit un courant dans l'aimant. Et vous voyez ici le montage expérimental de Faraday. Une première bobine, celle qui est tenue à la main, est reliée à une batterie, donc un courant circule dans cette bobine. Ce courant crée un champ magnétique. Et en déplaçant la bobine dans une seconde bobine, la bobine extérieure, la variation du champ magnétique crée un courant dans la deuxième bobine qui est détecté par un galvanomètre qui dévie lorsqu'on effectue ce déplacement. Donc, en découvrant cet effet, en fait, Faraday a conduit à la révolution électrique. En fait, ce système, c'est le système qui est utilisé dans les dynamos, les générateurs de courant électrique qui transforment l'énergie mécanique des turbines aussi bien dans les centrales nucléaires que dans les centrales à charbon en courant. Et c'est à la base des moteurs électriques qui, inversement, transforment l'énergie électrique en travail mécanique. Les voitures électriques que l'on développe actuellement fonctionnent suivant ces principes, et les transformateurs également. Mais rien n'indique que Faraday ait eu vraiment l'idée, la prémonition de cette révolution. On dit, une légende raconte que lorsque le Premier ministre Gladstone visita son laboratoire au milieu du XIXe siècle, et Gladstone lui demanda « Mais à quoi tout cela peut-il servir ?» que Faraday aurait répondu « One day, sir, you may tax it. » Un jour, vous prélèverez des impôts là-dessus. Mais vraisemblablement, les historiens disent que cette phrase est inventée. Elle a été inventée justement à l'époque où ces applications ont commencé à se développer. Troisième exemple que je vais prendre, c'est celui de Maxwell, qui découvrit en 1865 les lois de l'électromagnétisme. En se servant des travaux, en approfondissant les travaux de Faraday et d'Ampère, il montra que la variation d'un champ électrique dans l'espace crée un champ magnétique, dont la variation à son tour crée un champ électrique, et que ces deux champs s'entretiennent mutuellement pour produire une onde électromagnétique transversale se propageant dans l'espace, et avec une longueur d'onde, la longueur d'onde c'est la distance entre deux crêtes successives de cette onde, et de cette façon il a unifié l'électricité, le magnétisme et l'optique, parce que ces équations lui ont montré que la vitesse de propagation de cette onde était celle que les physiciens français Foucault et Fizeau avaient trouvé pour la lumière. Et Maxwell dit dans son article que ça ne peut pas être une coïncidence, que la lumière doit donc être une onde électromagnétique. Et donc il a fait cette première unification importante de la physique. Ce que montrent ces équations, c'est que la lumière visible, celle que Fresnel étudiait dans ses travaux, avait une longueur d'onde comprise entre 0,8 et 0,4 micromètres. C'était la lumière ce sont les ondes qui sont visibles à l'œil, mais qu'au-delà, il devait exister des ondes infrarouges qui se prolongent jusqu'aux ondes radio, et de l'autre côté, des ondes ultraviolettes qui se prolongent jusqu'aux rayons X. Mais à la mort de Maxwell, ces ondes n'étaient pas découvertes, et ce n'est que quelques années plus tard que Hertz en Allemagne découvrit les ondes radio, et 10 ans plus tard que Röntgen découvrit les rayons X. Donc ceci montre également la puissance prédictrice d'une théorie, et montre également les liens qui existent entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, parce que nous savons tous que ces ondes radio et ces rayons X ont conduit à des révolutions technologiques. La communication par ondes radio, les applications médicales des micro-ondes, le diagnostic médical des rayons X, etc. Donc, vous voyez la transition entre recherche fondamentale et innovation, mais ce passage va dans les deux sens. Lorsque les instruments qui exploitaient, qui détectaient ces ondes nouvelles se sont perfectionnés, on s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes qui étaient inexplicables par la théorie de Maxwell, par les théories classiques de Maxwell et la thermodynamique classique. Et c'est ce qui a conduit, au tournant du siècle, à ces questions qui ont conduit à la relativité et à la physique quantique. Donc l'observation, grâce au progrès technologique, de phénomènes inexplicables par les modèles existants, conduit à les remplacer par des théories nouvelles. En 1900, Lord Kelvin, qui était le grand pape de la physique de l'époque, a prononcé un discours qui est resté célèbre, une conférence célèbre à la Royal Institution à Londres, qu'il a appelé « 19th century clouds over the dynamical theory of heat and light », l'existence de deux nuages qui venaient obscurcir les théories classiques qui n'arrivaient pas à expliquer le comportement des échanges de chaleur entre matière et lumière et la vitesse de la lumière. Donc il s'agit de deux questions sur le rayonnement de chaleur, le fait que les corps chauffés émettent de la lumière, mais que cette lumière a un spectre que la physique classique n'arrivait pas à expliquer. En particulier, la physique classique prévoyait que le rayonnement devait devenir de plus en plus intense, plus la longueur d'onde était courte, ce qui conduisait à ce qu'on a appelé la catastrophe ultraviolette, qui n'était pas observée expérimentalement et qui en plus était absurde parce qu'elle conduisait à des phénomènes qui ne respectaient pas la conservation de l'énergie. Et d'autre part, le problème de la vitesse de la lumière. On a cherché par tous les moyens de mesurer la vitesse de la lumière pour un référentiel en mouvement. L'idée classique étant que si on se déplace dans le sens de la lumière, elle doit apparaître aller moins vite, et si on se déplace à l'opposé du sens de la lumière, on doit la voir arriver plus vite. Eh bien, les expériences d'interférométrie de l'époque, en particulier l'expérience de Michelson, ont montré qu'il n'en était rien et que la vitesse de la lumière était une constante indépendante de l'observateur. Et ces deux problèmes, ces deux nuages de l'ordre Kelvin, ont conduit à la physique quantique pour expliquer l'anomalie du rayonnement thermique et à la théorie de la relativité restreinte plus générale pour expliquer la constance de la vitesse de la lumière. Et à la convergence de ces deux théories, il y a évidemment un homme, Albert Einstein, qui par une série de papiers publiés d'abord en 1905 et culminant avec la théorie de la relativité générale en 1916, a bouleversé complètement nos conceptions scientifiques en introduisant l'idée que le temps et l'espace formaient un tout, l'espace-temps, que l'univers était courbe, que la physique quantique n'était pas déterministe, qu'il y avait des tas de choses que l'on ne pouvait pas concevoir avec notre intuition classique. Et tout cela a mené évidemment à des technologies quantiques modernes, je cite les transistors et les ordinateurs, le laser, les horloges atomiques et le système de navigation GPS, et l'imagerie par résonance médicale. Alors je vais dire quelques mots de plus sur le GPS, parce que c'est un exemple extraordinaire de la puissance de la théorie pour créer de l'innovation. Le GPS, c'est donc un système de géolocalisation mondiale qui est basé sur le fait qu'un grand nombre de satellites gravitent autour de la Terre. Ces satellites portent des horloges atomiques extrêmement précises, et l'horloge atomique, c'est une retombée de la physique quantique. Ces horloges, chacune de ces horloges garde le temps avec la précision d'une nanoseconde par jour, un milliardième de seconde par jour. Elles échangent des signaux micro-ondes entre elles de façon à se synchroniser et à mesurer avec une grande précision leur distance mutuelle. Et elles envoient des signaux vers la Terre, signaux que nos téléphones portables détectent, et à partir de la détection des signaux provenant de 3 ou 4 satellites, on peut se localiser par triangulation sur Terre avec une précision de l'ordre du mètre. Et ça, c'est donc un résultat extraordinaire à la fois de la physique quantique et de la relativité et de technologies diverses en électronique, technologie des micro-ondes, et également puissance des ordinateurs qui sont capables de transformer ces signaux en position sur une carte. Je voudrais insister sur l'importance de la théorie de la relativité. En fait, ces horloges se déplacent par rapport à nous, et la théorie de la relativité restreinte dit que le temps qui s'écoule dans les référentiels de ces horloges est différent. Il est plus lent que celui que l'on observe sur Terre. D'autre part, ça c'est la relativité restreinte. D'autre part, ces horloges se trouvent à une altitude beaucoup plus élevée, à des milliers de kilomètres au-dessus du sol, et la théorie de la relativité générale nous dit que ces horloges doivent avoir des tic-tac évoluer plus rapidement que dans le champ gravitationnel plus intense au niveau du sol. Les ingénieurs de l'armée américaine qui ont mis au point le GPS considéraient ça comme des subtilités ésotériques, un problème de physique théorique dont ils n'ont pas tenu compte. Et dans les premières applications, leurs ordinateurs ne tenaient pas compte de ces problèmes et le GPS était faux par plusieurs kilomètres, était complètement inutile. Et ceci les a contraints, en tout cas c'est ce qu'on raconte, à inclure les théories de la relativité restreinte et générale de façon à faire rendre le GPS précis. Donc on peut dire que des millions d'utilisateurs qui utilisent le GPS, testent tous les jours ces théories sans le savoir. Les applications sont vraiment essentielles. Alors, est-ce qu'on peut dire que le GPS est uniquement un système pour des applications, pour l'innovation? En fait, le GPS joue également un rôle, et les systèmes dérivés du GPS, les horloges atomiques ultra précises, jouent un rôle très important pour mesurer la forme exacte de la Terre. En première approximation, la Terre est une sphère, mais en fait, il y a des déviations par rapport à la sphéricité. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est quelque peu exagéré. La forme patatoïdale que vous voyez là est quelque peu exagérée, mais il y a des déviations, et les surfaces de gravitation égales, ce qu'on appelle le géode terrestre, a des irrégularités, et on peut les observer, ne serait-ce que parce qu'une horloge, le temps que marque une horloge à cause de la relativité générale, dépend du champ de gravitation. Et donc, on est en train d'effectuer des cartographie de plus en plus précise de la figure de la Terre. Alors, est-ce que c'est de la curiosité pure ou est-ce que c'est une recherche utile? Alors, on peut dire d'abord que ça peut être utile à la navigation, ça peut permettre d'améliorer le GPS. C'est important en géophysique parce que les variations du champ de gravitation permettent de déceler l'existence de masses différentes à l'intérieur du sol et ça peut être intéressant pour l'exploitation minière, par exemple. Ça peut permettre également de mesurer avec précision le niveau des océans, comment il varie du haut marée, comment il varie du réchauffement climatique qui change le niveau des océans. Ça peut permettre d'étudier la fonte des calottes glaciaires. Et on peut même penser, on voit que c'est également utile pour étudier la dérive des continents, et on peut penser qu'un jour, on pourra prédire les tremblements de terre par les petites modifications du champ de gravitation qui les précèdent. Donc vous voyez qu'il y a des tas d'applications possibles, éventuelles, de ce type de recherche. Et je voudrais dire que, en fait, cette question et cette tension permanente entre recherche fondamentale et appliquée n'a pas commencé aujourd'hui. Dès le XVIIe siècle, les questions fondamentales sont posées sur la forme de la Terre. Est-ce que la Terre, à partir du moment où on a eu des premières idées que la Terre n'était pas exactement sphérique, deux théories sont opposées. La première, c'était celle d'un ellipsoïde oblongue, un peu comme un ballon de rugby. La Terre serait un ellipsoïde pointant vers les pôles. Et si c'était le cas, un degré le long d'un méridien décroîtrait de l'équateur au pôle. Et en fait, cette idée était soutenue par l'astronome de l'Observatoire de Paris, le chef de l'Observatoire de Paris qui s'appelait Cassini, ce qu'on pourrait appeler, ce que les Anglais appellent l'observateur royal. Et Cassini avait fait des mesures de triangulation en France et avait mesuré le méridien, un degré de latitude le long d'un méridien au sud et au nord de la France. Et ces expériences semblaient montrer que le degré décroissait de l'équateur de latitude méridionale, latitude septentrionale, et il avait donc dit que la Terre devait être oblongue de cette façon. En fait, Cassini faisait ses mesures pour Louis XIV, qui voulait avoir une carte exacte de la Terre, et par triangulation, Cassini a établi une carte qui était différente des cartes antérieures et qui montrait qu'en fait, la surface de la France était plus petite que ce qu'on prévoyait, ce qui fit dire à Louis XIV que M. de Cassini avait, en établissant ses cartes, diminué son royaume plus que n'avait pu le faire n'importe quelle guerre. Donc c'est un peu, ça montre une puissance de la science. La thèse opposée, c'était que la Terre était au contraire un sphéroïde aplati, un degré le long d'un méridien croîtrait de l'équateur au pôle. Et cette thèse était soutenue par la théorie. En fait, les théories de Huygens et de Newton semblaient l'indiquer. En effet, l'explication est assez simple, la Terre tourne sur elle-même, la force centrifuge, s'il y a des masses fluides à l'intérieur de la Terre, doit écarter les régions équatoriales plus que les régions polaires. Il y avait également une expérience qui semblait indiquer ça. Un astronome français envoyé par l'Observatoire de Paris avait fait des mesures astronomiques à Cayenne, en Guyane, et il avait observé que le pendule battait plus lentement en Guyane qu'à Paris, et que ça ne pouvait pas être expliqué uniquement par la force centrifuge, qu'il fallait ajouter un terme indiquant que le pendule en Guyane devait être plus loin du centre de la Terre que le pendule à Paris. Mais Cassini avait une très grande notoriété et la discussion continua. Et la question était comment établir la vérité, et la seule façon d'établir la vérité, c'est de faire des mesures et de les faire sur des distances beaucoup plus grandes que d'aller du sud au nord de la France où les erreurs pouvaient voiler cela. Donc l'Académie des sciences, en 1736, envoie deux expéditions, l'une au cercle polaire, l'autre à l'équateur, pour répondre à cette expérience par des mesures. Et les deux chefs de ces deux expéditions ont été Maupertuis pour l'expédition polaire et la condamine pour l'expédition à l'équateur. Et Maupertuis est d'ailleurs un grand mathématicien et un physicien également, puisqu'il a établi des principes équivalents aux principes de Newton pour la mécanique. Pour une raison dont je ne me souviens plus, Voltaire haïssait Maupertuis dans ses pamphlets, l'a insulté à de multiples reprises, mais Maupertuis était un grand scientifique et également un grand aventurier, parce qu'aller dans les régions polaires à l'époque n'était pas aussi facile que maintenant. La Condamine a connu des tas d'aventures dans son voyage en Équateur, que je vous recommande. Il y a un livre qui a décrit cela de façon extrêmement précise et imagée. Voici la carte des triangulations qu'a effectuée la Condamine entre l'Équateur et le premier degré de longitude sud, de latitude sud, dans la vallée des deux qui connecte les deux cordillères occidentales et orientales. C'était à l'époque ce qu'on appelait la vice-royauté du Pérou. Et donc la Condamine a fait ses mesures et il a reporté sur cette carte des triangles qui lui ont permis de faire ses mesures. Cette triangulation s'effectue avec des lunettes astronomiques dirigées vers des points particuliers du paysage. Il a fabriqué des triangles, mesuré les angles de ces triangles avec précision. Et il suffisait de mesurer simplement la base d'un des triangles en allant directement sur Terre, en reportant des toises qu'il avait amenées de Paris, pour réunir tous ces triangles entre eux et avoir le degré de longitude. Et en fait, les méthodes de triangulation qu'il a utilisées sont des méthodes mathématiques qui sont les mêmes que celles qu'utilise le GPS. Le résultat, il a été rapporté par deux communications à l'Académie des sciences. En fait, je les ai trouvées dans le bureau de l'administrateur. Il y a toutes les comptes rendus de l'Académie des sciences depuis le XVIIe siècle, et j'ai trouvé ces articles très intéressants. Donc, Maupertuis est revenu le premier, et il a publié un article qui s'appelle « La figure de la Terre déterminée par messieurs de l'Académie royale des sciences qui ont mesuré le degré du méridien au cercle polaire ». Et quelques années plus tard, Bouguer, qui était un collègue de la Condamine, puisque la Condamine est restée pendant plusieurs années encore en Amérique du Sud, a indiqué une relation abrégée du voyage fait au Pérou par messieurs de l'Académie royale des sciences pour mesurer les degrés du méridien aux environs de l'équateur et en conclure la figure de la Terre. Et le résultat, c'est qu'effectivement, la Terre est aplatie. La différence entre l'Orient équatorial et l'Orient polaire est d'environ 3 millièmes, ce qui avait été prévu par Newton. Et ce qui permet aux Équatoriens d'être très fiers et de dire que le sommet du Chimborazo à l'Équateur est plus élevé que l'Everest, parce qu'il est plus loin du centre de la Terre à cause de cet aplatissement de la Terre que ne l'est l'Everest. Et je voudrais terminer cette remarque pour revenir à mon propos, pour vous montrer que dès l'époque de Maupertuis, la discussion entre recherche fondamentale et appliquée se posait déjà. Dans l'introduction de son mémoire, de son compte-rendu, Maupertuis écrit pour justifier les raisons de l'expédition. L'Académie se voyait ainsi partagée. Ses propres lumières l'avaient rendue incertaine lorsque le roi voulut faire décider cette grande question, qui n'était pas de ces vaines spéculations dont l'oisiveté ou l'inutile subtilité des philosophes s'occupent quelquefois, mais qui doit avoir des influences réelles sur l'astronomie et sur la navigation. Donc déjà, dès le XVIIIe siècle, les savants éprouvaient le besoin de justifier leur recherche fondamentale par son utilité potentielle. Et on continue à le faire jusqu'à aujourd'hui, comme vous allez le voir dans un moment. Je vais prendre un autre exemple, qui est celui de la découverte de la résonance magnétique et de l'IRM. Et pour cela, je remonte donc à la période d'avant-guerre pour vous parler des travaux d'un grand physicien américain, Isidore Rabi, qui s'est intéressé au magnétisme des noyaux atomiques. Il voulait mesurer le moment magnétique des noyaux des atomes, portés par des atomes ou des molécules, et il a mis au point la méthode des jets moléculaires. Cette méthode consistait à chauffer dans un four les atomes ou les molécules qu'il voulait étudier et les extraire dans un vide très poussé. Ces atomes sortaient sous forme d'un jet se propageant en ligne droite, et il faisait passer le jet entre les pôles d'aimants puissants dans les zones A et B. Le gradient du champ magnétique prenait des signes opposés dans les zones A et B, ce qui poussait ces atomes par la force magnétique vers le haut dans la première zone et vers le bas dans la seconde. Et la trajectoire que suivaient les atomes avait une forme de S qui venait converger, se focaliser sur un détecteur. Et donc on mesurait l'arrivée des atomes sur ce détecteur. Entre les zones A et B, Rabi plaçait une petite cavité dans laquelle des radiofréquences faisaient basculer les moments magnétiques du haut vers le bas. Et ce basculement s'effectuait lorsque la fréquence de la radiofréquence correspondait à la différence d'énergie entre ces niveaux, ce qui lui permettait de mesurer le moment magnétique qui interagissait avec le champ. Et lorsque cela se produisait, évidemment, le basculement des moments magnétiques faisait que les moments magnétiques n'atteignaient plus le détecteur, et qu'il y avait donc une diminution du signal obtenu, diminution qui lui permettait, en mesurant le champ magnétique dans lequel elle se produisait, de mesurer les moments magnétiques. Donc c'est un petit peu long comme explication, mais ça vous montre, c'est en fait une recherche fondamentale. Il s'agit de mesurer le moment magnétique de choses qu'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur de la matière, des atomes. Mais ces recherches, ces expériences ont conduit à l'IRM, aux horloges atomiques, au GPS et au laser. Donc c'est vraiment une expérience cruciale qui a conduit à ces différentes révolutions. Et je vais parler juste de l'imagerie par résonance magnétique. En 1939, Rabi participa à une conférence, et cette conférence a été rapportée dans les journaux. Et je vous montre le titre, c'est un peu flou parce que j'ai pris ça sur l'Internet, mais la une de ce journal, le New York Post de décembre 1939, dit « Nous sommes tous des stations radio ». Tous les atomes dans les humains et dans l'acier émettent et reçoivent des ondes des ondes radio, des longues longueurs d'onde. Et quand on regarde le sous-titre, chaque être vivant sur la Terre est une station de radio qui reçoit et émet de façon inconsciente des ondes radio. Et on citait le professeur Rabi. Donc je ne sais pas exactement ce que Rabi a dit dans cette conférence, mais il a dû sans doute dire que les atomes qu'il avait étudiés dans son laboratoire étaient les mêmes que ceux qu'on avait à l'intérieur de notre corps, et que ceux-ci devaient également émettre et absorber des ondes radio. Et évidemment, l'information d'une station de radio peut être intéressante, et on pourrait peut-être utiliser ça dans un diagnostic. Mais la technologie n'était pas là, et ce n'est que quelques années plus tard, après la guerre, donc on passe de 39 à 45, que Felix Bloch et Edward Purcell ont amélioré la méthode de Rabi en l'appliquant non pas à un jet atomique ou moléculaire, mais à de la matière condensée, un liquide ou un solide, qui contient les atomes qui sont capables de résonner. Et donc le dispositif, je vous le montre ici, vous avez le système est relié à un générateur de radiofréquence, une bobine qui émet les ondes radio dans l'échantillon, la bobine émettrice, et une bobine réceptrice qui reçoit les ondes radio, non seulement l'onde émise par l'émetteur, mais également la réponse des atomes dans le milieu à ces ondes. Et le résultat, c'est que lorsqu'on balaye la fréquence de ces ondes radio, on observe des résonances qui sont une signature des atomes à l'intérieur du milieu, qui nous renseignent sur la composition chimique de ces atomes, sur leur environnement, sur les perturbations qu'ils subissent de la part des atomes voisins. Et ça, c'est une technique de résonance magnétique qui est employée en physique, en chimie, en biologie depuis cette époque. Cette recherche a été rendue possible parce que les générateurs de micro-ondes sont devenus beaucoup plus puissants et beaucoup plus fiables pendant la guerre à cause des recherches menées sur les radars pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà encore un retour de technologie qui a permis de la recherche fondamentale. Pour vous montrer d'ailleurs la beauté et les raisons pour lesquelles les chercheurs font de la recherche fondamentale, je vous montre ici le début de la conférence qu'Edward Purcell a prononcée lorsqu'il a reçu le prix Nobel pour cette découverte en 1952. Je pense que ce texte résume de façon parfaite l'impression, la joie, le plaisir que procure une découverte sans même penser aux applications. Et j'insiste en particulier sur la phrase que j'ai soulignée là, qui dit « Je n'ai toujours pas perdu cette sensation d'émerveillement et de plaisir à l'idée que ce mouvement délicat, donc des noyaux atomiques, se produit dans toutes les choses ordinaires qui nous entourent, en ne se révélant qu'à celui qui cherche à les voir. » Alors aujourd'hui, on dirait à celui ou à celle qui cherche à les voir. Vous voyez que, et puis il continue en disant de façon poétique que c'était un mois d'hiver à Boston et qu'il voyait des amas de neige sur le pas de sa porte et qu'il se rendait compte qu'à l'intérieur de ces amas, les molécules d'H2O avaient ces mouvements de rotation invisibles et qu'il était le premier à avoir vu cela, à avoir compris ce phénomène caché de la nature. Donc ça, c'est vraiment la motivation des chercheurs. Et cela a conduit à une application inattendue qui est l'imagerie par résonance magnétique. Alors, on a tous, ou beaucoup d'entre nous, ont sans doute subi cette opération qui consiste à être introduit dans un champ magnétique intense. Les différents atomes, molécules d'eau de notre corps possèdent des petits moments magnétiques portés par les noyaux d'atomes d'hydrogène qui tournent dans un champ magnétique et qui se basculent dans le champ magnétique à une fréquence qui dépend de l'amplitude du champ. Alors si on réalise un champ inhomogène qui change de point en point, on conçoit que le signal correspondant va pouvoir déterminer où se trouve, quelle est la densité de ces noyaux d'hydrogène en différents points. Et de cette façon-là, en couplant cet appareil à des ordinateurs puissants, on peut reconstituer des images à deux ou trois dimensions de l'intérieur de notre corps. Donc c'était impossible à l'époque de Purcell parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'aimant puissant. Mais il a fallu donc ces développements technologiques pour arriver à cette découverte qui ont conduit à des résultats extrêmement importants. On peut observer de façon statique et dynamique le fonctionnement du cerveau. Notre collègue De Haan étudie ces phénomènes avec beaucoup de précision. Lorsque l'activité cérébrale excite certaines zones du cerveau, le flux du sang augmente. Le sang transporte de l'hémoglobine qui transporte des atomes de fer qui sont magnétiques, et donc ça change les signaux de résonance magnétique en ces différents points, et on peut ainsi explorer les fonctions cérébrales et même étudier l'émergence de la conscience. Donc vous voyez l'importance de ces recherches. La dernière recherche dont je voudrais vous parler, c'est revenir au laser et à Einstein. Donc en 1916, Einstein s'est posé la question d'essayer de retrouver les lois de l'équilibre thermodynamique entre la lumière et la matière, en faisant le bilan des échanges d'énergie entre les atomes et la lumière. Et on sait qu'un atome qui possède deux niveaux d'énergie différentes peut absorber de la lumière en passant de l'état du bas G à l'état du haut. Ce phénomène d'absorption était bien connu. Il était également bien connu que l'atome, une fois excité, allait retomber dans son état fondamental en émettant spontanément un photon, un grain de lumière. C'est Niels Bohr qui, en 1913, avait établi empiriquement les règles de ce mécanisme qu'on appelle l'émission spontanée, le photon étant émis de façon aléatoire par un saut quantique à un instant aléatoire. Et Einstein s'est rendu compte que si on ne tenait compte que de ces deux processus, absorption et émission spontanée, on ne retrouvait pas l'équilibre thermodynamique, on ne trouvait pas la loi de Planck du rayonnement, et qu'il fallait pour cela ajouter un troisième processus, qu'il a appelé l'émission stimulée, qui dit que lorsqu'un photon arrive sur un atome excité, cet atome est induit à émettre un autre photon, non pas de façon aléatoire, mais avec la même fréquence, la même phase et la même direction que le premier photon, que le photon incident. Et ceci est un mécanisme d'amplification de la lumière. Et c'est ce mécanisme qui a été mis en œuvre 40 ans plus tard pour créer le laser. Donc on réalise un milieu que l'on excite par un moyen qui peut être soit une décharge électrique, soit l'excitation lumineuse sur le côté. Ces atomes se trouvent dans une cavité qui permet à la lumière de faire de nombreux allers-retours. Et chaque fois qu'elle passe sur les atomes excités, elle est amplifiée jusqu'au moment où le bruit amplifié conduit à l'oscillation, l'auto-oscillation du système. Un des miroirs est légèrement transparent, la lumière sort et c'est le faisceau laser. Alors, je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance du laser comme une innovation pratique. Le laser sert à des tas de choses pour la mesure des distances, la mesure des temps, en chirurgie, la lecture des disques CD, DVD, la propagation dans les fibres optiques qui a conduit à l'Internet. Enfin, on pourrait citer des tas d'exemples, mais je vais juste donner un exemple de physique fondamentale. Comment cet objet technologique a permis une découverte fondamentale très importante, qui a été la détection des ondes de gravitation. Il y a 1,3 milliard d'années, à une distance gigantesque de la Terre, deux trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre ont perdu de l'énergie gravitationnelle et ont fini par se combiner, par collapser l'un sur l'autre, coalescer, en fournissant une quantité d'énergie gigantesque. En une seconde, en moins d'une seconde, l'équivalent de 5 masses solaires ont été dissipées, et ceci a provoqué une gigantesque onde de gravitation, une déformation périodique de l'espace-temps, qui s'est propagée pendant plus d'un milliard d'années jusqu'au moment où elle est arrivée au niveau de la Terre. Et au niveau de la Terre, elle a produit un effet absolument minuscule. Les antennes de gravitation que vous voyez en bas sont des interféromètres. La lumière est divisée en deux bras qui se propagent à angle droit, et je montrerai sur la diapositive suivante comment ça fonctionne. Et ces deux interféromètres, situés à 3000 km l'un de l'autre aux États-Unis, ont enregistré ensemble le signal de coalescence. En fait, c'est un véritable tour de force parce qu'on a détecté une variation de distance entre des miroirs qui sont séparés de 4 km. Le changement de distance des miroirs a été simplement de l'ordre d'un milliardième de la taille d'un atome. Alors, un atome, c'est déjà à peu près un milliardième de notre taille à nous. Donc, vous avez 18 ordres de grandeur entre notre taille et la distance que ces miroirs ont été capables de détecter. Ce système s'appelle LIGO, et je vous montre ici un peu plus en détail comment ça fonctionne. Vous avez donc un laser qui est envoyé sur une lame semi-réfléchissante, un beam splitter qui sépare le faisceau laser en deux directions, qui va se réfléchir sur des miroirs et revient sur la lame séparatrice. Et si la distance des deux trajets est fixée, est exactement la même, la lumière qui revient va interférer. Si on a juste une demi-longueur d'onde de différence entre les trajets, la lumière va s'éteindre complètement sur la lame séparatrice et on ne verra rien au niveau du détecteur. Si une onde de gravitation passe, elle va légèrement augmenter la distance dans un des bras, la légèrement diminuer dans l'autre. Et quand je dis légèrement, je vous parle d'un effet qui est de l'ordre donc de 10-20 fois la distance entre les systèmes, et des photons vont arriver sur le détecteur. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le laser qui a été essentiel pour cette observation vient de la découverte de l'émission stimulée par Einstein dans l'année même où il avait prédit l'existence des ondes de gravitation. Mais Einstein n'a jamais pensé que ces découvertes seraient un jour liées de cette façon et que l'idée qu'il avait eue pour l'émission stimulée allait un jour servir à permettre de détecter ces ondes de gravitation. Et je voudrais également ajouter que cette interférométrie, c'est une méthode qui est finalement née avec Young et Fresnel au XIXe siècle, le fait de combiner des ondes de diviser des ondes en deux et de les recombiner. C'est une méthode extrêmement puissante pour connaître la nature. Alors, sur cette diapositive, je voudrais en un tableau résumer un petit peu ce que j'essaie de vous dire. Donc, vous avez la nature dans laquelle des tas de phénomènes se passent. Vous observez des phénomènes, vous réalisez des expériences qui sont des observations dirigées. Dans votre laboratoire, vous essayez de rassembler sur une scène contrôlée un phénomène et étudier comment il se passe. À partir de là, vous construisez des théories. Ces théories prévoient de nouveaux phénomènes. Par exemple, la physique quantique prévoit l'existence de l'émission stimulée. Et ces nouveaux phénomènes permettent de construire de nouveaux instruments, par exemple le laser. Et ces instruments permettent de sonder à nouveau la nature de façon encore plus précise. Et on arrive ainsi à un cercle vertueux. Et en plus de tout ça, ces instruments permettent, nous donnent le pouvoir sur la nature, puisqu'on peut s'en servir pour des tas d'applications pratiques. Et c'est ce que j'appellerais la toile de la science. C'est une toile qui relie physique fondamentale et application de façon extrêmement serrée. Et si l'on cherche à faire évoluer la théorie, il faut faire attention à ne pas déchirer cette toile. Si on change quelque chose, il faut s'assurer qu'on continuera à vérifier les phénomènes qu'on avait déjà compris par les théories antérieures. Et c'est cette toile extrêmement sensible de la science que tous les négationnistes qui prétendent, par exemple, que le réchauffement climatique n'a pas lieu, déchirent tous les jours parce qu'ils ne comprennent pas que les phénomènes sur lesquels se basent les connaissances scientifiques actuelles sont des phénomènes qui ont été testés depuis des siècles en physique, en chimie, en thermodynamique. Et lorsqu'ils nient ces phénomènes, en fait, ils nient l'existence de cette toile logique de la science. Je vais terminer en parlant du domaine dans lequel je travaille moi-même, qui est la manipulation d'objets quantiques individuels. Cette manipulation s'est développée dès les années 80, la possibilité de voir et de manipuler des atomes et des photons grâce aux avancées technologiques, en particulier du laser, et c'est de la recherche fondamentale. On peut piéger des ions et les observer, on peut piéger des photons dans une cavité et les observer et les manipuler, et l'idée, c'est que ceci aura sans doute des retombées pratiques importantes dans les années qui viennent. Vous avez sans doute tous entendu parler de l'ordinateur quantique, mais il est très difficile de prédire ce que seront ces applications. Si vous reprenez les exemples que je vous ai donnés, je pense qu'on est dans la même situation que des gens, toute proportion gardée, que des gens comme Einstein ou Purcell, qui, au moment de leur découverte fondamentale, ne savaient pas à quoi elles s'appliquaient. Et je dois dire qu'à l'époque, la pression pour prétendre qu'on allait obtenir des applications spécifiques était beaucoup moins forte qu'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on ait demandé à Purcell s'il allait réaliser un système d'IRM ou à Einstein s'il allait faire des recherches qui allaient conduire à un laser. Aujourd'hui, malheureusement, les choses sont différentes et pour obtenir un financement, il faut absolument essayer de faire cet exercice très hasardeux qui est de prédiction du futur. Alors, actuellement, par exemple, l'Union européenne a lancé un grand programme qu'on appelle le flagship européen sur les technologies quantiques. Et le genre de choses que vous voyez ici, vous les trouvez sur les sites européens et sur les sites de nombreux laboratoires en Europe, où il y a une compétition effrénée pour montrer qu'on fait des recherches qui vont avoir une application pratique immédiate. En fait, ce que les chercheurs du quantum flagship européen disent de façon plus ou moins subtile aux dirigeants européens, c'est « One day, sirs, you may tax Schrödinger's cat ». Alors, est-ce qu'on va arriver vraiment... Il y aura des applications, mais est-ce que ces applications vont produire des marchés de plusieurs milliards ou dizaines de milliards de dollars? Je crois qu'il est trop tôt pour le dire. Et je pense que, heureusement, il est trop tôt pour le dire, parce que ce qui fait la beauté de la recherche scientifique, c'est son imprédictibilité. Ce qui fait son charme, c'est qu'on va vers l'inconnu. Et qu'en allant vers l'inconnu, il se passe des choses qui sont souvent des surprises. Je vous remercie.